Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Comment compenser la perte de pouvoir d'achat? Prime à la reconversion pour les véhicules trop polluants, prime également pour se débarrasser de sa chaudière au fioul. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été annoncés récemment pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes. Bonjour Philippe Erlin.
Bonjour.
Vous êtes économiste. Alors tout d'abord, il faut nous rappeler ce que sont ces dispositifs.
Oui, alors il y a plusieurs dispositifs. Pour le chauffage au fioul, il y a la volonté du gouvernement de les supprimer d'ici une dizaine d'années. Donc il y a des aides qui vont être mises en place. Et pour les automobiles, il y a actuellement des primes à la conversion qui sont de l'ordre de 2000 euros quand on est non imposable ou 1000 euros quand on est imposable, qui vont passer à 4000 euros à partir de 2019.
Alors la question qui se pose maintenant consiste à savoir si le pouvoir d'achat des Français va être entamé ou compensé par ces dispositifs. Et justement, vous, Philippe Erlin, vous avez étudié le pouvoir d'achat des Français sur la longue durée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tout d'abord, on va commencer avec l'automobile.
Alors, ça donne des résultats qui sont très différents de ceux de l'INSEE, parce que justement, dans mon livre, je dénonce le fait que l'INSEE a tendance à minorer l'inflation de façon à pouvoir ensuite sortir un pouvoir d'achat positif. Mais moi, je le conteste avec certains nombre d'autres économistes. Le fait, par exemple, que l'immobilier soit sous-évalué ou qu'il y ait un effet qualité, enfin, tout ça contribue à rogner l'inflation.
Alors, voilà. Il faut juste expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous considérez que l'immobilier est minoré, en quelques mots, Philippe Erlin.
Eh bien, l'immobilier pèse pour 6% seulement dans l'indice des prix à la consommation, alors qu'il représente un chiffre beaucoup plus important pour les Français. Et donc ça contribue à évacuer toute la hausse de l'immobilier que les gens ressentent quand ils payent leur crédit ou quand ils payent leur loyer, quoi.
Et puis l'effet qualité, alors là c'est un effet important, vous allez le définir. Ce qu'il faut aussi expliquer aux auditeurs, c'est qu'en fait l'inflation c'est un indice, comme tout indice, eh bien il part du postulat qu'on va prendre certains produits dans cet indice et d'autres qu'on va laisser hors de l'indice. Et ces choix, bah, ils sont évidemment pas neutres. Et vous êtes entré dans le panier et vous avez trouvé cet effet qualité, drôle d'effet. En quoi consiste-t-il, Philippe Erlin?
Eh bien par exemple, quand vous changez votre smartphone de votre marque préférée, s'il est plus cher que l'ancien, pour vous, c'est une perte de pouvoir d'achat, parce que ça vous coûte plus cher. Mais l'INSEE va vous dire qu'en fait, le nouveau smartphone est plus puissant que l'ancien, il a plus de fonctionnalités. Donc, dans sa base, l'INSEE va mettre un prix inférieur au prix étiquette. Elle va considérer que vous avez plus pour votre argent. Et donc, ça contribue à tirer vers le bas les prix, notamment des biens technologiques.
Et donc, ce que vous contestez, en fait, Philippe Erlin, c'est que le pouvoir d'achat des Français est augmenté. Vous dites finalement qu'il y a un certain nombre d'indices qui ont été pris pour que ce pouvoir d'achat augmente. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la question de l'automobile et des carburants?
Alors, sur l'automobile et les carburants, on perd en pouvoir d'achat. On a gagné, moi, la période d'étude, c'est 1965-2015. Donc, 65, on est à la fin des Trente Glorieuses. Là, on voit une forte progression du pouvoir d'achat. C'est incontestable dans tous les domaines. Mais on voit une cassure à partir du milieu des années 70, quand la crise arrive. Et depuis, on gagne un petit peu sur certains domaines, comme le vêtement, l'alimentation. On perd énormément sur l'immobilier.
Et dans quelle proportion?
L'immobilier, la part dans le budget augmente à partir du milieu des années 80. Il augmente de 10%. Alors que les gens n'ont pas la volonté d'avoir des appartements plus grands ou voilà. Donc c'est vraiment une perte. Une perte, c'est vraiment une dépense subie de l'ordre de 10%, donc c'est vraiment énorme.
Mais il y a quand même des domaines où c'est compensé, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, une baisse significative.
Depuis 75, significative, mais pas si énorme que ça, et ça suffit pas à compenser la hausse de l'immobilier, quoi. Voilà. Et puis aussi, comme vous le demandiez, sur le carburant et sur l'automobile, depuis début des années 80, on est perdant. Il y a eu, en termes de pouvoir d'achat. Le calcul que je fais, c'est que je prends les prix de l'époque et je les divise par le SMIC net mensuel de l'époque. Donc je regarde ce que les gens devaient dépenser, consacrer en temps de travail nécessaire pour faire un plein ou pour acheter une voiture populaire de base. Voilà.
Et alors ça donne quoi précisément?
Eh bien, nous sommes perdants et la perte, elle s'accentue à partir des années 2000 pour le carburant. Et ça vient du fait qu'il y a une hausse des matières premières général qui commence à partir des années 2000 et ça se voit sur le carburant. Et pour l'automobile, on perd à partir de 2010, notamment parce qu'il y a des normes anti-pollution qui deviennent beaucoup plus sévères et qui obligent les constructeurs à faire des investissements. Et donc, ça a augmenté les prix de l'automobile.
C'est-à-dire que vous avez suivi en fait le prix d'une voiture populaire.
Voilà.
Et ce prix, il a augmenté ces derniers temps.
Il a augmenté, c'est-à-dire quand on le ramène au SMIC net de l'époque, chaque année, eh ben on voit qu'il y a une augmentation importante à partir de 2010. Quoi, voilà.
Et puis pour la question du chauffage, puisque ça c'est l'autre question qui se pose, sur le plan donc des chaudières au fioul, qu'est-ce que vous avez observé, Philippe Herlin, vous qui êtes économiste?
Alors j'ai pas suivi de prix sur le fioul, mais enfin, comme c'est lié au carburant, ça fait aussi une hausse qui s'accentue depuis 2015 avec la fiscalité écologique qui contribue à rajouter une dépense qui se rajoute au prix du baril de pétrole. Quoi.
Alors ce qu'on pourrait vous rétorquer, Philippe Herlin, c'est qu'il est possible que pour une partie des Français, je dis bien une partie, eh bien ils pourraient se détourner des transports individuels pour les transports collectifs. Et là, est-ce que vous avez des notions précises de l'évolution du prix, par exemple, du ticket de TER ou de bus?
Non, ça j'ai pas d'infos là-dessus, mais quand on regarde s'il y a un report, le report il est assez limité. Bon, il y a plein de gens qui ne peuvent pas arbitrer entre voitures individuelles et transports en commun, et pour les transports en commun, on en construit beaucoup, c'est-à-dire quand on reproche au gouvernement de pas dépenser assez d'argent dans la transition énergétique, il répond mais on finance beaucoup de TER et de tramway, mais le fait d'équiper une ville avec un tramway en dehors de l'effet d'annonce que ça procure, ça concerne un nombre de personnes assez limité, et le problème c'est qu'un tramway, ça coûte très cher en frais de fonctionnement. C'est-à-dire, il faut savoir que le prix des billets couvre à peu près 25% du coût total de fonctionnement. Ça, c'est le chiffre pour les TER en France. Et pour les tramways, c'est le même ordre de grandeur. Donc, ça veut dire qu'avec l'argent de la transition énergétique, on va fabriquer des tramways qui vont peser sur les finances des collectivités locales. Et ça va se traduire un jour ou l'autre par des impôts et donc par des pertes de pouvoir d'achat. Voilà.
Donc, l'effet...
Avec un effet sur le CO2 qui sera extrêmement limité.
Merci Philippe Herlin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le pouvoir d'achat, le grand mensonge, et c'est publié aux éditions Erol.